écoutez IDFM, il est 10h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Mission Ouverte, l'émission écologique d'IDFM Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30, je suis Laurence. Vous pouvez nous suivre sur la bande FM 98.0 ou sur le site idfm98.fr. Au programme de ce nouveau numéro, un auteur, Hervé Le Guilladère, pour son ouvrage « L'aventure de la biodiversité de Ulysse à Darwin », 3000 ans d'expédition naturaliste, c'est pas aux éditions Alpha dans la collection Science. On va découvrir avec l'auteur les meilleurs moments depuis l'Antiquité jusqu'au 19e siècle à travers des récits d'expédition. Alors on va suivre et rencontrer Marco Polo, Cook, Lapérouse ou encore Darwin. On n'oubliera pas des grands noms français aussi, comme un certain Louis XIV ou Napoléon Bonaparte. C'est formidable. C'est à retrouver donc aux éditions Alpha. Et puis, on se retrouvera en fin d'émission pour donner quelques idées de sortie en région autour de la nature. Merci à Francky pour la technique. On se retrouve juste après ça avec notre invité. À tout de suite.
Va dire à cette meuf que tu l'aimes, va dire à ton père qu'il te manque. Si t'aimes trop naturel, n'écoute pas les filles qui se mentent. Va dire à ton boss que tu pars, tu l'aurais fait tôt ou tard. Va dire aux autres qu'on est prêt pour un nouveau départ. Mais comment faire? J'ai peur de quoi? Comment faire? C'est n'importe quoi. Et comment faire? J'ai peur de quoi? Je regarde dans le miroir et j'ai peur de toi. Le monde m'attend pas, si on m'entend pas, j'irai leur dire et demain sera meilleur, c'est plus fort que moi. Le monde m'attend pas, si on m'entend pas, j'irai leur dire et demain sera meilleur, c'est plus fort que moi. Amitiés égarées, avec vous je visais la lune. Merci de m'aider pour ça, mais pour que ma vie s'allume, je dois régler tout ça. Mais comment faire? J'ai peur de quoi? Comment faire? C'est n'importe quoi. Et comment faire? J'ai peur de quoi? Je regarde dans le miroir et j'ai peur de toi.
Retrouvons Monsieur Hervé Le Guilladère. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de votre ouvrage « L'aventure de la biodiversité de Ulysse à Darwin, 3000 ans d'expédition naturaliste » que l'on peut retrouver aux éditions Alpha dans la collection Science. Alors tout d'abord, monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots auprès de nos auditeurs ?
Donc je suis émérite professeur de biologie évolutive à l'université de Jussieu. Et donc j'ai fait cet ouvrage il y a quelque temps déjà.
Et on peut le retrouver donc dans cette version poche pour celles et ceux qui seraient curieux de cette aventure, parce que c'en est vraiment une lorsque l'on vous lit et ce que l'on découvre, que la biodiversité, eh bien, ça a été l'affaire de notre humanité depuis le tout début et dont on était dès l'Antiquité assez à la fois curieux et émerveillé.
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de biodiversité, maintenant on imagine des naturalistes professionnels qui vont voyager, alors que au départ c'était une question d'émerveillement, de trouver des animaux, des végétaux un peu particuliers. Et puis, au fur et à mesure des siècles, on voit que, eh bien, on va commencer à faire une revue des organismes que l'on va voir. On va essayer de les collectionner, puis de les mettre en ordre. Puis après, essayer, enfin, disons, en arrivant vers le 18e, 19e siècle, essayer de comprendre un peu pourquoi il y a un ordre sous-jacent dans ce qui apparaît être un foisonnement.
Alors, votre ouvrage commence par une époque des plus lointaines. On est au 8e siècle avant notre ère, avec la vraie nature du cyclope et Ulysse. Pouvez-vous nous rappeler comment Homère comptait ses aventures de ses héros et nous comptait justement cette nature, cette biodiversité?
Alors, effectivement, j'ai commencé ce livre par Ulysse. Il fallait un commencement. Oui. Je ne savais pas lequel trouver. Et puis, j'ai eu cette idée. Parce qu'effectivement, à l'époque, je venais de relire Homère, pour tout vous dire. Et le mythe du cyclope, l'une des idées qui sortent, que les paléontologistes ont montré, c'est que le cyclope était peut-être le résultat de la découverte dans les îles de la Méditerranée d'éléphants nains, et que l'œil, entre guillemets, du cyclope était confondu avec l'origine du nez, des fosses nasales, et très remontée chez les éléphants. Alors j'ai trouvé que c'était une bonne idée d'essayer de relier le mythe avec quelque chose qui correspond à de la paléontologie, à de la zoologie.
Et c'est comme ça, tout au long de cette trentaine de récits, on découvre comment l'homme, à son époque, dans son contexte, comme ça, apprivoisait cette nature pour mieux la connaître, parce que encore aujourd'hui, on n'a pas fini de découvrir des espèces animales ou végétales. On est dans la deuxième partie de votre ouvrage, L'aventure de la biodiversité, où on est donc avec Francis Bacon qui publie son œuvre. De Novum Organum Scientiarum, si je ne dis pas de bêtises, et oui. Qui nous rappelle que cette observation de la nature, c'est pas seulement pour assouvir une curiosité, c'est aussi pour améliorer les sciences, le progrès.
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée n'a pas... Au départ, la découverte de la nature n'était pas obligatoirement liée à, disons, une simple curiosité, mais c'était la recherche, par exemple, les premiers grandes traversées ont été occasionnées par la recherche des épices. Et donc c'était l'appât du gain, la recherche de richesses, la recherche de comptoirs, la recherche de ports, etc., etc. Donc il y avait le côté extrêmement matérialiste. Il faut pas se leurrer. Et le premier qui a réussi à faire un tour du monde, a vraiment bouclé le tour du monde, le premier capitaine Francis Drake, c'était quand même un grand pirate.
Oui, ah oui, c'est ce qu'on découvre. Hein. On découvre que, comme vous le rappelez, hein, c'est pas sans nuée d'intentions plus ou moins mercantiles. Néanmoins, à ce jour, grâce à toutes ces expéditions qui mêlent à la fois donc la recherche de cette nouvelle végétation, de ces nouveaux animaux qui sont ramenés après dans leur pays. Alors, on parle pas que de l'Europe, hein, on découvre aussi que c'était une vraie quête pour les Chinois, pour les Japonais, entre autres. Mais nous, on n'est pas en reste, notamment avec un certain Louis XIV.
Vous dites Louis XIV, c'est bien compris.
Oui.
Oui, Louis XIV, il a été l'un des grands rois a vraiment lancé des expéditions, que ce soit d'un côté avec Tournefort vers le Moyen-Orient, ou avec Charles Plumier, par exemple, qui est allé dans la Caraïbe, avec donc découverte dans la Caraïbe. Vous imaginez, c'était un grand botaniste, tout ce qu'il a pu découvrir immédiatement.
Ah, vous nous rappelez, hein, le vanillier, le cacaoyer, le frangipanier, des arbres formidables.
Absolument, absolument. Et puis il a décrit aussi beaucoup de poissons. Plumier était un moine, et Louis XIV avait bien compris que s'appuyant sur les moines pour les envoyer comme ça faire des naturalistes, il pouvait faire de deux pierres d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que non seulement il envoyait des naturalistes, mais il envoyait aussi des espions, c'est-à-dire qu'il revenait avec des très belles collections, mais aussi avec le relevé des fortifications des ports espagnols et portugais qu'il y avait en Amérique.
Et vous nous rappelez donc toutes ces grandes plantes qui vont revenir, notamment donc les ingrédients du chocolat originel. Là encore, c'était vraiment des expéditions formidables, des aventures extraordinaires, et tout ça pour le bonheur de notre savoir, et puis pour le bonheur des locaux de l'époque. Vous nous dites aussi dans cet ouvrage la fascination des collections, car là aussi il y a une vraie passion qui va naître au XVIIIe siècle.
Oui, alors cette fascination des collections, elle est étrange. Elle vient, disons, avec le siècle des Lumières. Hein. Franchement, c'est complètement lié à ça. Alors, bien évidemment, ce sont les grandes familles princières riches qui vont pouvoir se permettre de faire ce qui va correspondre à des cabinets, ce qu'on appelle les cabinets de curiosité, où on amassait un peu toutes les choses un peu particulières qui venaient de d'outre-mer, et aussi des jardins botaniques. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, si vous voulez, c'est qu'ils avaient l'impression que, en amassant ces données, ils allaient pouvoir avoir, disons, un espèce de résumé de l'univers. C'est-à-dire que non seulement il y avait des objets de naturalistes, mais aussi il y avait des vieilles pièces de monnaie, il y avait des peintures, etc., etc. Et l'autre point sur lequel je voudrais insister, c'est aussi sur le fait que ces cabinets de curiosité, ces jardins botaniques qui vont donner l'idée de donner un ordre dedans. Comment on va classer ça? Pourquoi? Parce que quand vous faites un jardin, vous demandez, je mets une plante ici, mais pourquoi l'autre la met à côté, je la mets plus loin? Et ils vont faire aussi des ouvrages. Ils vont vouloir, qu'est-ce qu'on met à la page suivante, comment, et ça va donner l'idée de classer, et la classification va être un des très grands travaux du 18e jusqu'au 19e, et qui va continuer jusqu'à maintenant, bien évidemment.
Alors, il y a de très nombreux hommes qui sont comptés dans ces grands explorateurs, hein, de l'aventure de la biodiversité. Néanmoins, on découvre dans votre ouvrage au chapitre 6 un certain Jean Barret, qui serait donc une Jeanne Barret et qui donc était la compagne d'un naturaliste très connu dans son à son époque et qui serait montée un peu en cachette parce que c'était interdit les femmes à bord.
Oui, alors ça, je ne pouvais pas faire autrement que de parler de Jeanne Barret, qui est un personnage assez singulier, qui était la compagne de Philibert Commerson, qui était le naturaliste de l'expédition que tout le monde connaît, de Bougainville. Mmh. Et en fait, donc, les femmes étaient interdites sur les bateaux du roi. Et donc, elle a été découverte en arrivant à Tahiti. Mais Bougainville a été très souple, disons. Il les a débarquées simplement en arrivant à l'île Maurice. Et c'est ça qui va faire d'ailleurs que Commerson va découvrir toute la biodiversité de Madagascar. Et Jeanne Barret va après boucler le tour du monde et c'est ainsi qu'elle sera la première femme à faire tour du monde. Alors, ce qui est aussi savoureux, c'est que à son retour, Louis XV l'a fait venir à la cour et lui donne une rente. Et la qualifie de femme la plus courageuse et tout. Donc, bien que ce soit interdit, disons que son embarquement va être extrêmement important. Soulignons que c'était une excellente botaniste.
Et c'est ce qu'on découvre hein, dans votre ouvrage « Aventure de la biodiversité ». Alors, il y est question aussi dans votre ouvrage des grands noms comme de la Pérouse, Darwin et tant d'autres. Mais j'aimerais aussi revenir, parce qu'on est un peu chauvin hein, dans l'émission, à Bonaparte. Quand il est parti en Égypte, il n'a pas été tout seul, bien au contraire. Il s'est fait accompagner par des naturalistes. Et là encore, hein, c'était novateur.
Ah, c'était extrêmement novateur. Alors, pour tout vous dire, dans ce livre, je suis un peu chauvin aussi, parce que, bien évidemment, j'étais allé voir ce que les Anglo-Saxons avaient fait, et je dois dire que j'étais outré à un moment donné de voir que dans les ouvrages américains ou anglais, on ne parlait que des Anglais ou des Hollandais, et que les Français, on n'en parlait quasiment pas. Alors, j'ai parlé de quelques Français qui n'étaient pas très connus et pourtant qui devaient être connus, comme par exemple l'expédition Baudin. Mmh. Mais vous avez raison, Bonaparte sera extrêmement important puisqu'il est allé en Égypte avec des savants. Et si son expédition d'Égypte a été un échec militaire, qu'il a réussi à transformer en réussite, mais ça c'est autre chose. Il est allé avec des savants et au point de vue naturaliste, ça a été absolument extraordinaire, ce qui a été découvert, que ce soit des poissons du Nil, que ce soit des plantes, ou que ce soit par exemple l'étude comme ce qu'a Geoffroy Saint-Hilaire a fait, par exemple, d'étudier les momies des animaux qui ont été trouvés en particulier à Thèbes. Et ça a été quelque chose de vraiment important de voir comment vivaient ces Égyptiens autrefois. Il n'y avait pas que des momies humaines, mais des momies d'animaux. Et il s'est quai en se demandant, mais est-ce que ce sont les mêmes que maintenant? Et donc, il avait été déçu de se rendre compte que c'était les mêmes que maintenant. Mais à l'époque, on ne se rendait pas compte que, disons, au point de vue évolutif, c'était pas quelques centaines ou quelques milliers d'années qui vont être importants, mais ça va être beaucoup plus, bien évidemment, ce qu'on va découvrir avec Darwin, par exemple, plus tard.
Alors, on arrive à la cinquième partie de votre ouvrage, l'aventure de la biodiversité, où vous nous rappelez, vous nous expliquez, vous nous apprenez que la défense de l'environnement arrive assez tardivement, avec notamment John Muir, qui est un homme qui va nous rappeler qu'il va falloir préserver tout cela, et notamment grâce à des parcs nationaux. Et ça, donc, c'est finalement à la fois récent, même si aujourd'hui on se dit quand même c'est fin 19e, début 20e, mais néanmoins sur l'histoire de l'humanité, c'est assez récent.
C'est très récent, effectivement, c'est-à-dire que c'est quand même au 19e qu'on se rend compte qu'il peut y avoir une destruction de l'environnement. Et donc, j'avais choisi John Muir parce qu'il est extrêmement célèbre aux États-Unis. Et effectivement, il a été à l'origine de la création de différents parcs nationaux, que ce soit Yosemite, Yellowstone, etc. Et donc, mais si vous voulez, ce sur lequel j'insiste, c'est que c'était à l'époque une protection de l'environnement un peu étrange, c'est-à-dire que on repère des endroits assez emblématiques, comme le parc de Yellowstone. Donc, j'allais dire, on le met sous cloche, mais à l'extérieur, on peut faire ce que l'on veut. C'est-à-dire que John Muir, qui va être content d'avoir ses parcs, eh bien, le fait de la destruction de tous les bisons, par exemple, il dit il fallait bien ça pour pouvoir faire de la culture. Vous voyez donc en fait, ça va être le début, effectivement, d'une idée de la protection de l'environnement, qui va évoluer énormément, et qui va évoluer, disons, j'allais dire, dans le bon sens, à la fin du 19e, début du 20e, plutôt d'ailleurs en Europe qu'aux États-Unis, où quand même, vu la taille, si vous voulez, des territoires, ils avaient l'impression qu'on pouvait encore tout se permettre. L'idée de la finitude n'était pas encore passée là.
Et cela, donc, on va le découvrir dans L'aventure de la biodiversité de Ulysse A. Darwin, 3000 ans d'expédition naturaliste, paru aux éditions Alpha dans la collection Science. Merci encore à vous, Hervé Duguillader. On rappelle, vous êtes déjà l'auteur de d'autres ouvrages comme Geoffroy Saint-Hilaire, un naturaliste visionnaire, ou avec Guillaume Lecointre, La classification phylogénétique du vivant, paru il y a déjà quelques années aux éditions Belin. Cet ouvrage est en format poche, donc on peut ainsi l'avoir auprès de nous et piocher selon son envie du moment, parce que finalement, cette histoire, elle est fascinante, et certaines thématiques sont peut-être plus peuvent être plus intéressantes pour certains. En tous les cas, on apprend beaucoup de choses. C'est ceux qui aimeraient découvrir comment le café est arrivé en Europe vont être assez impressionnés, sidérés, fascinés. Et puis celles et ceux qui voudront en savoir plus sur ces fameux scientifiques partis au bout du monde à une époque où les transports étaient pas ceux d'aujourd'hui. Ils étaient quand même assez aventureux et courageux. Et cela, donc, dans votre ouvrage à ne pas rater. Merci encore à vous, et puis on vous souhaite de belles choses à venir autour de votre travail. On rappelle, vous êtes professeur émérite de biologie à la Sorbonne Université. Merci encore à vous, à bientôt.
À bientôt, merci.
Au revoir.
Je suis un fils du vent, du ciel, de l'océan, né de la terre où dorment mes parents. Je garde mes racines, je vis et au corps, dans mon cœur pas très fort, le pays d'Armor. Dans mon cœur pas très fort, tout le pays d'Armor. J'ai dû être pêcheur, paysan ou marin, quand je porte en moi ce pays d'où je viens. J'ai dû courir les mers comme un corsaire mal loin pour amener de l'or dans le pays d'Armor. Pour amener de l'or dans le pays d'Armor. C'est comme un grand vaisseau de granit et de terre, de forêts, de légendes, de landes et de rivières. Il coule dans mes veines, mon âme et mon corps. Être de quelque part m'a rendu plus fort. Dans ma voix chante encore tout le pays d'Armor. Il est fier et sauvage, fait à en pleurer. Dans tes différences et ta dignité, indomptable et rebelle, entre vents et marées. Il est une femme, mon île au trésor, mon phare et mon port au pays d'Armor.
À l'écoute d'IDFM Radio, on se retrouve juste quelques instants avant de rendre l'antenne pour vous rappeler que c'est la 24e édition de la semaine du jardinage dans les écoles. Les enfants donc vont être une nouvelle fois sensibilisés à la protection de l'environnement avec comme thème fédérateur jardiner c'est ma nature, avec des pratiques de jardinage durable accompagnées par des professionnels des jardineries qui vont initier donc nos chères têtes blondes lors d'ateliers pédagogiques. Si vous voulez en savoir plus, vous avez le site jardinons-a-l'école.org. On se quitte en vous rappelant le nom de notre invité de tout à l'heure, Hervé Le Guilladère, qui nous a parlé de son ouvrage « L'aventure de la biodiversité » de Ulysse à Darwin, 3000 ans d'expédition naturaliste, que vous pouvez retrouver depuis quelques jours en librairie. À suivre, vous retrouvez Sabrina pour « Au cœur de l'assaut ». Merci encore à Francky pour la technique. Je vous souhaite une excellente journée sur les ondes d'IDFM Radio. À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas le podcast de l'émission sur notre site idfm98.fr. Au revoir.